Le journal, Aurélie Kiffer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Hier, Sylvie Goulard, aujourd'hui François Bayrou et Marielle de Sarnez. Les auditions se succèdent dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif du Modem au Parlement européen. Sylvain Tronchet de la cellule Investigation de Radio France fait le point sur ce dossier. Le futur code de justice pénale des mineurs prévoit une présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans, un jugement en deux temps, une mise à l'épreuve éducative. S'agit-il d'une avancée ? Analyse d'Anne Fauquemberg. La promesse du Premier ministre israélien d'annexer la vallée du Jourdain ne passe pas dans les territoires palestiniens. Reportage de Marine Vlaovic. Et puis la bourse de Hong Kong veut racheter la bourse de Londres qui réagit tièdement. Explication d'Anne-Laure Jumet. C'est l'affaire qui embarrasse Sylvie Goulard, désignée hier pour prendre en charge un vaste portefeuille économique au sein de la prochaine Commission européenne. Même si elle a quitté le Modem, elle a dû répondre hier aux questions des policiers sur les soupçons d'emploi fictif d'un de ses assistants lorsqu'elle était eurodéputée. Et aujourd'hui, c'est au tour de Marielle de Sarnez et de François Bayrou d'être auditionnés. En 2017, l'affaire les avait conduits tous les trois à démissionner du gouvernement moins d'un mois après leur nomination. Depuis, l'enquête s'est poursuivie. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Aurélie.
Et le dossier des enquêteurs s'est considérablement étoffé.
Oui, parce que c'est une enquête qui avance lentement, effectivement, depuis près de 2 ans et demi. Mais elle avance et si les enquêteurs de l'OCLIF ont décidé d'entendre François Bayrou et Marielle de Sarnez, c'est qu'ils disposent maintenant d'éléments, de témoignages qui montrent qu'il y aurait bien eu au sein du Modem une stratégie qui consistait à financer une partie du fonctionnement du mouvement grâce à des fonds européens. Le système était toujours à peu près le même. Des salariés étaient embauchés par le Modem. Ils étaient ensuite pris en charge par les députés européens du mouvement avec qui ils signaient des contrats d'assistants. Pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte de 2011, notamment. François Bayrou, à l'époque, prépare sa candidature à l'élection présidentielle 2012. Il a fait un très bon score en 2007. Il croit que cette fois-ci, c'est la bonne, mais il n'a pas de moyens. Son parti est exsangue financièrement. Il lui faut pourtant une équipe qui va le mettre sur orbite pour la campagne. Il apparaît qu'un certain nombre d'entre eux, une dizaine, auraient été financés donc par les parlementaires européens de l'époque, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Benamias et la nouvelle commissaire européenne, Sylvie Goulard, qui elle donc a été entendue hier.
Alors François Bayrou, lui, n'était pas député européen, contrairement à Marielle de Sarnez. Est-ce que le patron du Modem serait impliqué dans cette affaire ?
Pouvait-il ignorer la situation ? Alors, d'après nos informations, la perquisition menée au Modem par les enquêteurs a été fructueuse. Ils ont notamment saisi des mails ou des cadres du mouvement, échangent sur les montages de contrats de travail pour payer les salariés du parti, des mails qui ont été retrouvés jusque dans l'ordinateur de François Bayrou et qui semblent montrer que personne au sein du parti n'ignorait l'existence d'un système. Et puis les policiers ont également entendu d'anciens assistants. Certains qui travaillent toujours au Modem ont contesté avoir bénéficié d'emplois fictifs, mais d'autres témoignages sont accablants. L'un d'entre eux, notamment, est venu dire que le système existait bien avant la création du Modem, du temps de l'UDF. Cet assistant a lui-même bénéficié d'un emploi fictif. Et ce qu'il a expliqué aussi, c'est que Marielle de Sarnez, la plus proche collaboratrice de François Bayrou, était à la manœuvre.
Merci beaucoup Sylvain Tronchet de la cellule d'investigation de Radio France. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a lui été entendu par 3 juges d'instruction à Lille. Dans le cadre de l'enquête sur les mutuelles de Bretagne, il a dû s'expliquer sur son rôle en tant que directeur général des mutuelles de Bretagne dans une transaction immobilière datant de 2011. Une première enquête avait été ouverte par le parquet de Brest en 2017 après une plainte d'Anticor, ce qui avait obligé Richard Ferrand à quitter son poste de ministre de la cohésion des territoires. Anticor a ensuite déposé une seconde plainte et l'instruction a été dépaysée à Lille. Un portrait d'Emmanuel Macron a encore été décroché cet après-midi à la mairie de Saint-Ouen et plus de 200 personnes se sont rassemblées devant le tribunal de grande instance de Paris au cri de « Nous sommes tous des décrocheurs de portraits ». Une manifestation pour soutenir les 8 militants écologistes et le vidéaste jugé devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour vol en réunion. Ils avaient participé à la campagne de désobéissance civile « Décrochons Macron » lancée par le mouvement Action non-violente COP21 pour dénoncer l'inaction climatique de l'exécutif. Depuis le 21 février, 133 portraits officiels du président ont été décrochés. Compte rendu d'audience d'Antoine Marette.
Ils ont entre 23 et 36 ans. Aucun n'a de mention sur son casier judiciaire. Les faits sont reconnus par 8 d'entre eux. Ils ont bien pénétré au moins une fois dans une salle de mairie avec un but, décrocher et subtiliser le portrait du chef de l'État. Le seul moyen, selon l'une des prévenues, de montrer que le gouvernement n'a pas pris la mesure de l'urgence climatique. Elle ajoute, dérober le portrait présidentiel, c'est assez mineur par rapport à cette menace climatique. Ces militants défendent une désobéissance civique non violente pour bousculer l'opinion publique avec des critères précis. Visage découvert, pas d'agression physique ou verbale, pas de dégradation matérielle. La restitution des portraits est-elle envisagée ? Demande la présidente. Oui, si le gouvernement prend la mesure du problème, répond l'une des porte-paroles du groupe. Les débats portent essentiellement sur l'un des prévenus qui se présente comme journaliste. Il n'a pas de carte de presse, il reconnaît bien volontiers qu'il est très engagé en faveur de la cause environnementale, mais il affirme qu'il accompagnait les activistes pour faire son métier d'information, caméra à la main, ce que confirment les 8 autres prévenus. Le procureur interroge ce caméraman sur une image dans laquelle on le voit aider une activiste à déployer une banderole. Le jeune homme rectifie « Je n'ai pas déployé la banderole, j'ai tiré sur cette banderole pour la défroisser et faire une image qui relate bien ce qui s'est passé. » Ne vous dissimulez-vous pas derrière cette identité de journaliste pour participer à des actions, objecte le procureur. Réponse de l'intéressé, j'assume être journaliste et militant, je défends mes convictions à travers mes vidéos.
Et 57 personnes ont fait l'objet de poursuites en correctionnel pour avoir décroché le portrait du président. La ministre de la Justice précise les contours de la réforme de la justice des mineurs. L'ambition est de juger mieux et plus vite, a rappelé Nicole Belloubet en Conseil des ministres. Pour se conformer à la Convention internationale des droits de l'enfant, le seuil de responsabilité pénale est fixé à 13 ans. Ce futur code de justice pénale des mineurs instaure également une nouvelle procédure pénale en 2 temps, Anne Fauquemberg.
Oui, il s'agit de réduire de moitié les délais de jugement avec donc une première audience qui portera sur la culpabilité du mineur. Elle devra se dérouler dans les 3 mois maximum après la décision de poursuivre les faits au lieu de 18 mois en moyenne actuellement, dans les 9 mois suivants maximum également. Une mesure éducative devra être prononcée avant une nouvelle audience concernant la sanction. Pour la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, il était urgent d'agir sur ces délais aussi bien pour le mineur que pour la victime.
Une justice qui met du temps à être rendue, c'est une difficulté pour la victime qui n'a pas de réparation immédiate, mais c'est aussi une difficulté pour le mineur lui-même qui n'a pas conscience de la sanction et qui voit s'éloigner le temps entre le moment où il commet un acte délictueux éventuellement et le moment où on lui dit officiellement que ça n'était pas acceptable.
Mais pour Annelise Deneux, chargée de plaidoyer à l'UNICEF, cette procédure est tout simplement irréaliste.
On contraint dans des délais très serrés finalement les différentes étapes par rapport à ce qui est fait d'habitude. De manière très concrète, on en revient au manque de moyens. Si on veut accélérer le traitement des dossiers, concrètement, c'est pas fixé de manière très précise dans la loi des délais très serrés. C'est assurer qu'il y a plus de juges, plus de greffiers, plus de personnel de la PJJ, que les mesures éducatives, elles sont véritablement mises en œuvre et pas autre chose.
Cette nouvelle temporalité, elle ne s'adapte pas du tout au suivi éducatif de l'enfant, poursuit Annelise Deleu, qui précise aussi que c'est au juge de pouvoir apprécier du temps nécessaire aux jeunes qu'il suit. Selon l'UNICEF, donc, cette réforme sur la justice des mineurs, dont l'ordonnance de 45 est modifiée pour la 39e fois, s'éloigne un peu plus des fondements du texte, à savoir le relèvement de la personne en mettant au cœur du système les mesures éducatives.
Anne Fauquemberg, c'est une réforme par ordonnance, mais la chancellerie l'assure, le Parlement aura 1 an pour en débattre et pour modifier et enrichir ce nouveau code pénal des mineurs. La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d'anxiété. Elle avait récemment ouvert la voie à une indemnisation pour les travailleurs exposés à l'amiante. Dans une décision concernant d'anciens ouvriers des mines de Lorraine, elle indique qu'en cas d'exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, un salarié peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Le collectif Interurgence avait prévenu hier qu'il appelait à la poursuite du mouvement. Dès cet après-midi, plusieurs centaines de personnels hospitaliers ont manifesté à Paris à l'appel de la CGT. Après 6 mois de grève dans les urgences, des infirmiers, aides-soignants, sages-femmes et différents personnels des hôpitaux demandent toujours des moyens financiers et humains pour s'occuper de leurs patients au quotidien. Et dans tous les services, Fiona Mogadam, ils dénoncent des difficultés de plus en plus grandes.
Et avec ce mot d'ordre principal dans le cortège rempli de drapeaux aux couleurs de la CGT,
à l'hôpital, il y a trop de travail à l'extérieur, il y a trop de chômeurs, il faut embaucher.
Embaucher, car les services hospitaliers sont débordés. Sylvie est aide-soignante en EHPAD médicalisée à Angoulême depuis 8 ans. 8 ans qu'elle voit ses conditions de travail se dégrader.
On nous demande plus pour moins de moyens. Il a fallu il y a un mois qu'on se mette à faire des fiches d'événements indésirables
pour dénoncer les conditions de travail et on se retrouve dans une sorte de maltraitance passive parce que les conditions dans lesquelles on est appelé à travailler ne sont pas humaines.
En cause les effectifs, tout comme à l'hôpital de Rion, dans le Puy-de-Dôme où travaille Nathalie, infirmière.
On n'a pas le temps de faire les soins. Moi, je travaille en cardiologie avec des patients qui ont besoin, qui sont en fin de vie pour certains. On n'a même pas le temps de leur tenir la main quand ils sont sur le point de mourir, ce qui est dramatique dans notre profession à nous. C'est quelque chose d'inadmissible, en tout cas.
Parce que ce sont bien les patients les premiers concernés par ces problèmes de sous-effectifs pour Mervin. Il est aide médico-psychologique dans un hôpital psychiatrique dans l'Oise.
Les aidants, les aides-soignants, les infirmiers, il n'y a pas les mêmes tous les jours. Il y a des gens d'autres services qui viennent et ceci-là. Donc nos patients se sentent en insécurité. Ils ont besoin de cette sécurité, de cette constance au niveau des soignants. Du coup, ils sont plus agressifs et c'est plus difficile pour nous d'accompagner nos résidents dans la vie quotidienne.
Plus d'effectifs, plus de lits. Les personnels réclament aussi des augmentations. Une contestation pas près de s'éteindre. La prochaine manifestation est prévue dans 2 semaines à l'appel du collectif Interurgence cette fois.
Fiona Mogadam. Concert de critiques après la promesse de Benjamin Netanyahou d'annexer la vallée du Jourdain. À moins d'une semaine des élections législatives en Israël, le Premier ministre, candidat à sa réélection, a promis d'annexer la vallée stratégique en cas de victoire, soulevant ainsi une vague d'indignation dans le monde arabe et musulman et une condamnation de l'Union européenne car ce plan compromet les perspectives d'une paix durable. À Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne, cette promesse électorale signe l'arrêt de mort de la solution à 2 États. Reportage de Marine Vlaovic.
Simple coup électoral ou stratégie de longue haleine, la promesse de Benjamin Netanyahou d'annexer plus d'un cinquième de la Cisjordanie occupée en cas de réélection est une menace prise très au sérieux par Hanan Ashrawi de l'Organisation de libération de la Palestine.
Même si c'est en pleine campagne électorale, nous savons que ces propos trahissent les vraies intentions et l'idéologie de Benjamin Netanyahou. Donc nous ne les prenons pas à la légère.
Et cette déclaration sonne le glas une fois pour toutes de la solution à 2 États, selon cette dirigeante, rompue aux négociations avec l'État hébreu. Une solution déjà moribonde en raison de l'accélération de la colonisation israélienne.
Oui, je pense que plus personne n'en parle parce que le gouvernement israélien détruit la solution à 2 États, vole les terres censées servir à cette solution et essaie d'effacer la présence palestinienne. C'est devenu seulement un terme abstrait. Et beaucoup de gouvernements, particulièrement en Europe, continuent à dire qu'ils y sont engagés, mais ils ne font rien contre la politique d'Israël. Qui consiste à empêcher l'émergence d'un État palestinien viable territorialement dans les frontières de 1967. S'ils sont attachés à la solution à 2 États, alors ils doivent d'abord exiger le démantèlement des colonies, tenir Israël responsable de ses actes en vertu du droit international, reconnaître la Palestine et agir.
Mahmoud Abbas, le président d'une autorité palestinienne sans véritable autorité, a promis de suspendre les accords passés avec Israël en cas d'annexion. Un chiffon rouge agité à plusieurs reprises ces dernières années, mais qui n'a jamais été suivi d'effet.
Marine Vlaovic, correspondante de RFI et de France Culture. La décision a été prise par les 3 juges à l'unanimité. La plus haute instance judiciaire d'Écosse juge illégale la décision de Boris Johnson de suspendre les travaux du Parlement britannique jusqu'au 14 octobre. Un désaveu de plus pour le Premier ministre en grande difficulté. Mais le gouvernement va s'empresser de faire appel de cette décision devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Et alors que le pays plongé dans l'incertitude ne parle que du Brexit, voilà que la bourse de Hong Kong part à l'assaut de la Bourse de Londres, une offre surprise, accueillie assez tièdement par le London Stock Exchange. Cette place financière de premier plan qu'est Hong Kong est prête donc à mettre près de 36 milliards d'euros sur la table pour racheter la première place européenne, Anne-Laure Jumet.
Oui, c'est vrai que cette offre a créé la surprise. La Bourse de Londres souligne d'ailleurs que cette proposition de rachat n'est pas sollicitée et qu'elle va la regarder dans le détail avant de se prononcer. Alors pour la Bourse de Hong Kong, ce rapprochement permettrait de créer l'une des toutes premières plateformes de marché au monde avec une grande complémentarité, notamment sur le plan géographique, un axe est-ouest. Et puis ce projet intervient dans un moment particulier, hein, il faut le noter, avec une bourse de Hong Kong fragilisée par les manifestations monstres qui ont lieu depuis des semaines. Récemment, le géant Alibaba a ainsi reporté son introduction en bourse pour ne pas déplaire à Pékin. Et puis de l'autre côté, il y a donc le Brexit qui fait de la Bourse de Londres une proie plus facile en raison de la faiblesse de la livre sterling. Et puis, en dehors de raviver un passé commun, Hong Kong est, rappelons-le, une ancienne colonie britannique, cette opération pose question outre-Manche, puisqu'on aurait une entreprise chinoise, en fait, qui s'emparerait des marchés actions anglais, mais aussi italiens. La Bourse de Londres, et oui, a racheté celle de Milan. Y a-t-il donc derrière des risques politiques, des problèmes de sécurité? La ministre britannique de l'Industrie a fait part tout à l'heure de ses craintes. Rappelons que la City a déjà fait l'objet de nombreuses tentatives de rachat, notamment de la Bourse de Francfort, mais que ses offres ont échoué en raison de résistance réglementaire et politique.
Merci Anne-Laure Jumet. C'est l'un des visages du mouvement des parapluies à Hong Kong. Et depuis 3 mois, Joshua Wong a régulièrement pris part aux manifestations contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers Pékin. L'annonce du retrait définitif du texte ne suffit plus à ce jeune militant pro-démocratie. « Nous méritons d'élire notre propre gouvernement », dit-il. Ces dernières semaines, il a été arrêté à 2 reprises, puis relâché. Joshua Wong a donc décidé de partir. Et à peine arrivé en Allemagne, le jeune activiste a entrepris de rencontrer nombre de parlementaires ou de représentants des milieux des affaires, ainsi que des journalistes. Vous lui avez tendu votre micro, Ludovic Piétenu.
Joshua Wong vient chercher des soutiens pour l'aider à dénoncer ce qu'il qualifie de brutalité policière contre les manifestants hongkongais.
Beaucoup de manifestants qui ont été sexuellement harcelés par des policiers au moment de leur arrestation ou au cours de leur détention. C'est pourquoi je continue d'appeler l'Allemagne et les pays européens à condamner les agissements de la police anti-émeute de Hong Kong.
Avant-hier soir, dès son arrivée à Berlin, ce jeune activiste de 22 ans a pu rencontrer le chef de la diplomatie allemande. Cela a beaucoup agacé Pékin, qui a parlé d'un spectacle politique. Joshua Wong appelle l'Allemagne à résister à ses critiques.
Les manifestations à Hong Kong ne vont pas s'arrêter de sitôt. La censure politique et les limites à la liberté d'expression n'ont fait que transformer l'ensemble des jeunes générations en des dissidents.
Ce militant pro-démocratie hongkongais explique ne pas avoir choisi Berlin par hasard.
Les Hongkongais se considèrent désormais comme un rempart au régime autoritaire de Pékin. Hong Kong est le nouveau Berlin dans une nouvelle guerre froide.
Au-delà de la comparaison, Joshua Wong sait aussi que l'Allemagne est l'un des principaux partenaires économiques de la Chine, où Angela Merkel était en fin de semaine dernière en visite officielle. La chancelière allemande n'a pas souhaité le rencontrer. Prochaine étape pour ce militant, les États-Unis dans 48 heures.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture à Berlin. Et le pouvoir chinois n'a pas apprécié l'accueil réservé à Joshua Wong en Allemagne, ni la photo prise avec le ministre allemand des Affaires étrangères. Pékin a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en Chine pour lui faire part de la grande déception chinoise. Il parcourait les mers depuis 4 ans et demi sur les traces de Magellan. Le voilier suisse Fleur de Passion est revenu à quai à Séville. Et l'équipage vient maintenant rendre compte de cette aventure humaine, mais aussi scientifique, dans le même esprit que le voilier français Tara. Pour l'association Pacifique, qui a entrepris cette expédition, l'objectif était d'étudier l'impact des activités humaines dans et sur les océans. Et parmi les enseignants, une confirmation, le plastique est désormais partout à la surface du globe, Jérémy Lanche.
76 000 km parcourus, c'est presque 2 fois le tour de la Terre. Suffisant pour avoir une bonne idée de la concentration des microplastiques dans les mers. Ils sont présents dans 90% des échantillons qui ont été prélevés, explique Pascal Hagman de l'association Ocean Eye.
Il faut imaginer que la cartographie de la pollution mondiale par les déchets plastiques, c'est une grande image. Et chaque échantillon collecté permet d'allumer un pixel sur l'image. Patagonie et Polynésie, les concentrations sont très faibles parce qu'on est à la fois loin des sources et il n'y a pas de phénomène de concentration de déchets dans ces zones. Par contre, en Asie du Sud-Est, il n'y a pas de phénomène de concentration lié au courant marin a priori. Néanmoins, on trouve beaucoup de déchets parce qu'on est près des sources de pollution.
Pour la première fois, des scientifiques ont aussi pu mesurer dans le détail le niveau de pollution acoustique généré par le trafic maritime et les activités pétrolières et ses conséquences sur la faune sous-marine. Le docteur Michel André est le responsable du programme 20 000 sons sous les mers.
C'est des bruits qui sont très très élevés, qui sont très très bruyants. L'impact le plus fort peut arriver à faire imploser certaines structures internes et donc entraîner la mort de ces animaux-là. Surtout celles qui ne peuvent pas se déplacer.
2 autres équipes ont analysé les concentrations de CO2 et de méthane à la surface de l'eau. L'océan Indien et l'océan Atlantique pourraient d'ailleurs être des réservoirs inattendus de gaz à effet de serre. Un programme d'observation de la santé des coraux a lui pu mesurer les effets du réchauffement sur des récifs jamais étudiés. La Fondation Pacifique, à l'origine du projet, ne compte pas s'arrêter là. 2 autres voiliers suisses vont partir l'année prochaine cartographier l'Arctique et la Méditerranée orientale.
Jérémy Lanche à Genève. Un temps contrasté demain jeudi dans l'Hexagone. Au sud d'un axe allant de Nantes à Orléans et se prolongeant jusqu'à Belfort, le ciel sera bien dégagé. Plus au nord, beaucoup de nuages, voire un peu de pluie. Il y aura tout de même des éclaircies l'après-midi. Au lever du jour, le thermomètre affichera 3 à 15 degrés. L'après-midi, il fera 19 à 21 le long des côtes de la Manche, 21 à 24 sur le tiers nord du pays, 26 à 30 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.